Je crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Des personnes qui arrivent d'Afrique, des personnes qui arrivent des Balkans, et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes on les découvre autrement.
C'est marqué.
Bah, un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans À vous les Burgiens, on parle de la grève des avocats qui commence lundi pour une durée d'une semaine. Johan Foubert et Luc Parovel, avocats, sont nos invités. Ils viennent nous expliquer pourquoi le régime autonome des avocats est aussi menacé par la réforme des retraites. Ensuite, reportage avec l'Hippomobile qui ramasse les sapins de Noël et les autres déchets recyclables. Cette charrette, vous l'avez peut-être aperçue, elle passe certains matins dans le centre-ville de Bourg. Elle est tirée par une des juments d'Henri Josserand, éleveur à Dompierre-sur-Velle. Il nous invite à ses côtés pendant sa tournée. Alain Mathieu, élu en charge de la gestion des déchets pour le CA3B, la communauté d'agglomération de Bourg, nous explique aussi l'objectif de cette animation.
Radio B.
La grève continue contre la réforme des retraites. Le gouvernement s'est réuni pour un conseil des ministres de rentrée lundi 6 janvier. Plusieurs pistes de compromis vont être étudiées pour sortir du conflit. Une négociation entre les membres du gouvernement et les syndicats est d'ailleurs prévue mardi 7 janvier. Partout en France, la grève continue. Du côté des cheminots, la mobilisation reste constante pour ce deuxième mois. Et du côté des avocats, le Conseil national des barreaux, qui représente les 70 000 membres de la profession en France, appelle à une grève dure toute la semaine. Eux aussi craignent pour leur futur en tant que retraités. Avec nous en studio, Johan Foubert, jeune avocat installé en indépendant à Bourg-en-Bresse, et Luc Parovel, avocat et membre du Conseil de l'Ordre. Bonjour Johan Foubert.
Bonjour.
Bonjour Luc Parovel.
Bonsoir.
Le régime des avocats est un régime autonome qui s'autofinance. Alors comment fonctionne-t-il plus précisément ?
Alors d'abord, il faut voir ce qu'est un régime autonome. Les avocats cotisent pour leur retraite auprès de la Caisse nationale des barreaux français. C'est une caisse qui donc reçoit les cotisations chaque année versées par tous les avocats qui sont en exercice et qui, la même année, va distribuer aux avocats qui sont à la retraite des pensions de retraite. Le régime est autonome parce qu'il ne perçoit aucune autre cotisation que les avocats en exercice. Il n'y a pas de contribution de l'État notamment, et puis il est également autonome parce que la Caisse nationale est administrée par des avocats qui sont élus et qui donc ont un pouvoir de direction. Ils vont fixer notamment le taux de cotisation pour les cotisants et le montant des pensions pour les retraités.
Et donc ce régime, il est largement bénéficiaire, est-ce que vous pouvez l'expliquer aussi ?
Oui, dans la profession d'avocat, on a pour l'instant environ 4 cotisants pour un retraité dans la même année. Ce qui veut dire qu'on peut être 4 à provisionner la caisse quand un seul va bénéficier d'une pension. Ce qui nous permet d'avoir des taux de cotisation effectivement assez bas. On a également l'avantage, si je puis dire, d'avoir des carrières souvent beaucoup plus longues que les carrières du privé. Et puis également, là c'est un peu moins amusant, un taux de survie à la retraite un peu plus réduit que d'autres professions. Ce qui fait qu'en définitive, avec ces 3 paramètres-là, on peut se permettre de cotiser un peu moins pour verser des pensions aux retraités actuels. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous versons des pensions qui sont plafonnées. On verse un minimum de 1400 euros par mois, mais un maximum de 2500 euros par mois. Ce qui fait que celui qui aurait cotisé plus longtemps ou plus généreusement auprès de cette caisse n'en tirera pas de bénéfice. Au contraire, cela va bénéficier à l'ensemble des autres avocats retraités. Et c'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure des années, la Caisse nationale des barreaux français a constitué une sorte de réserve qui actuellement s'élève à 2 milliards. C'est un chiffre qui peut paraître très impressionnant quand on l'apprend comme ça. Tout simplement, aujourd'hui, je peux vous le dire, j'ai cotisé pour l'instant 5 années, mes 5 années d'exercice. Je sais d'ores et déjà que ma retraite sera financée, elle est déjà intégralement provisionnée auprès de la Caisse nationale des barreaux français. Je vais finalement, moi, cotiser aujourd'hui pour des retraites d'ores et déjà payées, ce qui fait que la mienne est assurée et que je cotise maintenant pour les avocats qui entreront dans cette profession dans plusieurs années. On a donc totalement anticipé une diminution du nombre de cotisants et une augmentation du nombre de retraités.
Donc cette réforme des retraites veut créer un régime universel, donc votre régime autonome est menacé. Et quelles seront les conséquences de cette éventuelle universalisation de votre retraite en tant qu'avocat ?
Alors d'abord évidemment la disparition des réserves constituées, ce qui veut dire que ma retraite ne sera plus assurée ou en tout cas elle devra être de nouveau financée. Donc c'est 2 milliards d'euros qui vont être versés d'un coup au régime universel, mais l'année prochaine il n'y aura plus rien. Et puis une fusion dans l'ensemble des professions, ce qui veut dire une très nette augmentation des taux de cotisation en même temps qu'une diminution importante des pensions. Je vais prendre mon exemple si vous le voulez bien. Aujourd'hui, le salaire médian d'un avocat est d'environ 44 000 euros par an. Il cotise sur cette base-là et on peut choisir de cotiser entre 10 et 13% de cette somme-là. Ce qui veut dire que je cotise à peu près autour de 4 000 euros par an pour ma retraite. La pension que j'en attends est donc d'au moins 1 400 euros par mois en fonction du nombre d'années de cotisation. Fondu dans le régime général, je serai amené à cotiser non pas 10 ou 13% mais plutôt 28%, ce qui va représenter une hausse de charges considérable, plus qu'un doublement en réalité. Et puis la retraite qui m'est promise sera plutôt autour de 1 000 euros. En fonction de cette cotisation. Ce qui veut dire qu'on est perdant sur les trois tableaux, à la fois sur les réserves qui avaient été constituées, à la fois sur une augmentation du taux de cotisation, très importante, et puis une légère diminution des pensions à venir.
Donc, comme vous l'avez dit, vous êtes perdant avec cette réforme et cette modification possible du régime des avocats. Est-ce que c'est aussi une menace pour l'exercice de la justice en général ?
La vraie difficulté, c'est que nous n'avons pas d'autres ressources que les honoraires que nous versent nos clients. Et on ne va pas se mentir, avoir aujourd'hui recours à un avocat, c'est déjà un engagement financier qui peut être important. Mais l'enjeu est souvent suffisamment important pour que cette dépense-là soit nécessaire. Si les cotisations augmentent très sensiblement, elles vont nécessairement être répercutées dans les honoraires sur nos clients finaux. La vraie difficulté, c'est que, hormis les clients qui bénéficient de l'aide juridictionnelle et qui donc ne contribuent pas au fonctionnement des cabinets d'avocats, l'ensemble de la clientèle va être exposée à une augmentation très sensible des honoraires. Ce qui veut dire ensuite, dans un deuxième temps, que certains clients pourraient se détourner du conseil, renoncer à faire valoir leurs droits ou être moins bien accompagnés. Et en fait, c'est de manière plus générale, pas seulement l'intérêt des seuls professionnels que nous sommes, qui venons manifester ou nous plaindre pour la perte d'un acquis, c'est aussi de manière beaucoup plus générale tout l'accès au conseil, tout l'accès aux droits et finalement l'accès aux juges qui sont rendus plus compliqués par une déstabilisation des cabinets en place.
Donc vous exercez en tant qu'indépendant. Est-ce que votre statut d'indépendant est aussi menacé avec cette réforme ?
Vous savez, les avocats sont suffisamment passionnés et comptent peu leurs heures pour finalement arriver à trouver des solutions en permanence. Et bien évidemment, on ne va pas quitter cette profession qu'on exerce avec passion. Mais effectivement, exercer comme indépendant, ça nécessite bien sûr beaucoup de sacrifices. C'est pas une règle exclusive aux avocats. Tous les indépendants savent ce que c'est que le quotidien de celui qui doit en permanence à la fois prospecter, également se former, bien sûr travailler, assurer toutes les tâches administratives. Ça, on le fait. Il n'y a pas de difficulté pour nous. Le vrai problème, c'est effectivement comment ne pas se regrouper, comment offrir le meilleur service en gagnant aussi moins bien sa vie, comment avoir d'ores et déjà cotisé pour des retraites que nous n'aurons pas, pour des pensions qui donc vont être absorbées, comment doublement cotiser pour des pensions réduites. C'est évidemment des questions qui sont financièrement inquiétantes et puis également assez blessantes.
Donc, comme vous l'avez dit, du côté des avocats, vous êtes largement bénéficiaire au niveau des retraites. Votre caisse de retraite est bénéficiaire. Vous êtes 4 avocats actifs pour un retraité environ. Pour la SNCF, c'est l'inverse. C'est un actif pour 2 retraités environ. Est-ce qu'une solidarité entre les différentes professions au niveau des retraites, c'est envisageable ?
Alors, c'est évidemment envisageable. Je vais même vous le dire, c'est déjà le cas, puisque notre caisse étant excédentaire, elle participe à un système de péréquation entre les systèmes excédentaires et les systèmes déficitaires. Et chaque avocat, lorsqu'il cotise, verse chaque année 1 350 € pour le régime général. Ce qui veut dire qu'il ne faudrait pas imaginer que les avocats qui souffrent un peu d'une image de nantis, comme ça enfermés dans leur beau cabinet, ne participent pas à cet effort de solidarité. Au contraire, on est très attaché au principe de fraternité et de solidarité, et on cotise nous-mêmes spontanément chaque année pour environ 80 millions d'euros, donc 1 350 € par an et par personne, au régime général. L'objectif, c'est en réalité d'aider les systèmes qui sont déficitaires et qui sont mal organisés, parce qu'ils sont mal gérés. Il faut aussi parfois faire le ménage chez soi et continuer à conserver les régimes autonomes qui fonctionnent et qui sont bien gérés.
Donc, quelles sont concrètement vos revendications en tant qu'avocat pour la réforme des retraites ?
L'objectif, c'est évidemment d'abord de ne pas perdre les réserves qui ont été constituées au cours des années par ceux qui nous ont précédés, dans un premier temps. Et puis également de conserver un régime qui bénéficie d'une autonomie. L'autonomie, elle s'entend dans 2 hypothèses. D'abord, les avocats veulent conserver le pouvoir de fixer le taux de cotisation et de déterminer la pension qui sera servie. C'est pour nous très important. Ça s'inscrit aussi tout à fait dans la philosophie, de manière générale, des avocats, de ne pas intégralement concéder le pouvoir de direction à l'État. Et aussi, il faut le dire, de garder la main sur l'usage qui va être fait des cotisations, parce qu'en fusionnant tout dans un grand tableau comptable, l'État peut aussi parfois utiliser l'argent placé pour les retraites à d'autres fins, peut-être plus urgente, parce que quand on parle de retraite, on parle de plusieurs décennies dans le futur, et on sait combien l'État peut être parfois extrêmement pressé de dépenser son argent, parce qu'évidemment, il y a aussi des contraintes matérielles extrêmement fortes qui pèsent sur lui. La deuxième chose, c'est que en conservant donc ce pouvoir de fixation des cotisations et d'attribution des pensions, en fait, pour l'instant, comme la profession est très intéressée au bénéfice de cette retraite, elle gère très bien cet argent. Et on craint beaucoup qu'en mélangeant tout, on aboutisse finalement à des systèmes assez peu intéressés, assez mal gérés, parce que plus personne n'y aurait vraiment intérêt, si vous voulez.
Donc c'est le Conseil national des barreaux qui appelle à cette grève, une grève dite dure. Alors qu'est-ce que c'est une grève dure ?
Contrairement à ce qui s'est fait jusqu'à présent, la grève va durer beaucoup plus longtemps. Elle va frapper tous les types de juridictions, tous les types d'affaires. Johan, excusez-moi.
Oui, nous par exemple au Barreau de l'Ain, on a décidé de reprendre intégralement les modes d'action qui avaient été suggérés au plan national. C'est-à-dire que pour être la plus dure possible, cette grève évidemment s'inscrit dans le temps. Elle est pour l'instant d'une semaine mais reconductible. Les avocats sont appelés à demander systématiquement le renvoi des affaires, ce qui signifie de manière très concrète que nous refusons de plaider devant les juridictions et que nous souhaitons une nouvelle date d'audience après la grève. On a aussi beaucoup d'actions pédagogiques pour expliquer à nos clients que le coût serait augmenté si cette réforme des retraites devait être acceptée en l'État, auprès des juridictions bien sûr, et puis les interventions, notamment celles que vous nous proposez aujourd'hui, permettent aussi de faire savoir que des systèmes de retraite autonomes peuvent fonctionner, le nôtre fonctionne, et que l'État y trouve un intérêt, puisqu'il ne n'y contribue pas, mais peut en profiter pour abonder les régimes déficitaires.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus les conséquences de cette grève sur le département ?
Oui, alors le bâtonnier de notre barreau a décidé de cesser toutes les désignations au titre des commissions d'office et des permanences d'urgence, ce qui de manière très concrète explique que les personnes placées en garde à vue dans notre département cette semaine ne bénéficieront pas des conseils d'un avocat ni de son assistance au cours des auditions, que les personnes qui feraient l'objet de poursuites disciplinaires en détention ne seront pas assistées, que les mineurs qui seraient amenés à être soit mis en examen, soit jugés par le tribunal pour enfants, n'auront pas d'avocat. Que de manière beaucoup plus générale, en fait, aucun justiciable convoqué en justice n'aura d'avocat, ni les auteurs de délits, ni les victimes devant le tribunal correctionnel. Que les audiences de cour d'assises seront toutes renvoyées, puisque l'avocat y est obligatoire compte tenu des enjeux. Et puis de manière générale, tous les contentieux des relations familiales ou des relations du travail ou bailleur-locataire ou même crédit, les relations d'emprunteurs et de prêteurs, ce sont l'ensemble des contentieux en fait qui sont touchés. Aucun juge ne verra d'avocat cette semaine.
Mais pourquoi avoir choisi cette semaine-là pour commencer cette grève ?
En fait, les avocats s'étaient inscrits d'abord dans une contestation assez peu radicale, en formulant des suggestions, en sollicitant le garde des Sceaux et l'ensemble de son cabinet pour trouver des solutions concrètes. On a des pistes de réflexion. Nos représentants n'ont pas été reçus, le cabinet ayant probablement un agenda extrêmement chargé. Et puis on a appris par la presse que certaines autres professions avaient pu conserver des régimes autonomes qui sont construits exactement sur le même système que le nôtre, puisqu'ils sont tous à peu près ils ont tous été conçus entre les années 45 et 55. On est sur la philosophie de la fin de la libération. Et en fait, la profession d'avocat a été totalement oubliée des négociations et totalement écartée par le gouvernement. Voilà, c'est ce qui nous étonne beaucoup, d'autant que notre régime avait quand même un fonctionnement qui était si satisfaisant qu'il pourrait même bénéficier à d'autres et pourrait peut-être même constituer un modèle de retraite pour pas mal de professions indépendantes.
Donc en gros, dans cette réforme proposée par le gouvernement, il n'y a rien à regarder, rien à garder pour les avocats.
C'est-à-dire que diminuer les pensions en augmentant les cotisations, c'est vrai que c'est difficile à avaler, hein, là, véritablement. S'il y a du bon dans cette réforme, à part le titre, on a du mal à le trouver.
Donc le côté universel, pour vous, c'est impossible à mettre en place ?
Il suffit de regarder chez nos voisins européens. L'ensemble des États qui ont souhaité universaliser les régimes de retraite l'ont fait en distinguant trois catégories, c'est-à-dire que ce sont des régimes universels mais en trois plans. Il faut évidemment distinguer les salariés du secteur privé, les fonctionnaires et l'ensemble de l'administration publique, et puis les indépendants. Le mode de fonctionnement et le mode de rémunération de ces trois catégories sont si différents. Les montants en jeu importent peu en réalité. On n'est pas là pour parce qu'on a plus de salaire ou moins de salaire que telle autre profession. C'est vraiment pas l'enjeu. La question, elle est simplement de l'origine des revenus et de celui qui va, in fine, payer la cotisation. C'est-à-dire que quand les indépendants doivent augmenter sensiblement le prix de leurs prestations parce qu'ils sont exposés à des cotisations plus importantes, c'est finalement un client derrière qui va supporter ce coût-là. Et nous disons que cela n'est pas juste, que nos clients surpayent les honoraires parce que nous surcotisons pour une sous-retraite.
Donc à la fin de cette semaine, vous attendez quoi du gouvernement ?
Il serait bon que le cabinet de la garde des Sceaux reçoive nos représentants d'abord, que le Conseil national des barreaux puisse enfin être écouté, ensuite que le Conseil national des barreaux soit entendu, ce qui n'est pas une habitude, mais ce qui peut être une des bonnes résolutions de l'année 2020. Et puis évidemment, il faudrait que ce régime soit protégé, parce qu'encore une fois, s'il devait souffrir de critiques, nous pourrions l'entendre. Or aujourd'hui, aucune critique n'est faite à ce régime autonome et c'est par idéologie que le gouvernement souhaite sa disparition. Dès lors que ce régime rapporte à l'État sans lui coûter, mais nous considérons qu'il rend service pas seulement à ses bénéficiaires que sont les avocats, mais finalement à l'ensemble des contribuables, puisque les 1350 euros par an et par avocat qui sont versés au régime universel en excédent ne le sont donc pas par le contribuable qui devrait sinon abonder pour des autres régimes qui sont des régimes soit autonomes, soit spéciaux.
Donc cette mobilisation des avocats, c'est un peu inédit l'ampleur que ça prend aujourd'hui ?
Bah, les avocats ne sont pas souvent contestataires dans leur propre intérêt. C'est d'ailleurs ce qui peut expliquer la sourde oreille qui leur est proposée par le gouvernement. Les avocats sont si investis et si passionnés par les causes qu'ils défendent en permanence pour d'autres qu'ils oublient parfois de regarder comment fonctionne leur propre protection et à veiller à leurs propres intérêts. Et là, encore une fois... Une fois qu'on a bien regardé le sujet et qu'on a contrôlé avec une certaine suspicion même le travail de l'ensemble de nos élus qui sont administrateurs de la Caisse, qu'on a véritablement pu leur donner un blanc-seing total dans la gestion de ces fonds et un quitus exact pour l'ensemble de leur œuvre, on ne peut d'abord que les remercier, que les féliciter et que nous féliciter collectivement de ce que nous avons un système qui fonctionne.
Est-ce que vous avez des dates dans cette semaine dans l'Ain, des mobilisations prévues ?
Alors pour l'instant, il y a encore des discussions qui se font au Conseil de l'Ordre qui va se réunir mardi.
Oui, tout à fait. Le Conseil de l'Ordre va se réunir mardi prochain et établir un calendrier en fonction de ce que nous aura indiqué le gouvernement suite aux revendications qu'on va faire valoir tout au long de cette semaine.
Donc merci Johan Foubert, merci Luc Parovel, vous êtes avocat à Bourg-en-Bresse. Jeudi 9 janvier, il y a une mobilisation interprofessionnelle, peut-être vous y participez. Donc à Bourg-en-Bresse, c'est rendez-vous au champ de foire à 14h30 et à Belé, c'est à 14h30, place des Terreaux.
Radio B.
Radio B.
Dans quelques minutes, reportage dans la tournée d'Henri Josserand, éleveur de chevaux qui conduit l'Hippomobile, un véhicule tracté par un cheval qui ramasse vos déchets occasionnellement sur Bourg. Et tout de suite, une petite pause musicale avec le groupe IAM et leur chanson « Sous la même étoile ». A tout de suite sur Radio B.
La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en trois pièces gris et BMW la monnaie? Et une belle femme qui n'épouse pas les pauvres, sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur de caviar, certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai dealé chaque jour? Pourquoi comme moi je plonge, lui passe sa thèse? Pourquoi les caches d'acier, les caches dorées agissent à leur aise? Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile?
La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Comme Issa, pourquoi j'ai fait paner la bonne étoile, veillant sur moi, couloir plein de toiles, cracha, cha-cha, de francs, compète des tapettes devant, supporter de grandir sans un franc, c'est trop décevant, simplement en culotte courte. Pas faire l'appel mécanique plate avec des pots de yaourt, c'est pas grave, je n'en veux à personne. Et si mon heure sonne, je m'en irai comme je suis venu. Adolescent, incandescent, chiant, à tour de bras sur le fruit défendu, innocent. Témoin de type abattu dans la rue, c'est une enfance de la pourriture, ouais. Je ne drague pas, mais virer des tartes aux petites avec les couettes.
Pâle de peur devant mon père, ma sœur portait le voile. Je revois à l'école les gosses qui la croient ce poil. C'est rien Léa, si on était moins scrupuleux, un peu de jeu du feu, on serait comme eux. Mais j'ai pleuré pour avoir un job comme un crevard sans boire. Les je t'aime à mes parents seuls dans mon lit le soir. Chacun son boulet, sans ambition, la vie c'est trop long. Écrire des poèmes, puis c'est violent dans un violon. Tu te fixes sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques. C'est pas la couleur, c'est le compte en banque. J'exprime mon avis, même si tout le monde s'en fiche. Je serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche.
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Mon Dieu, pourquoi ne puis-je vivre comme n'importe quel être humain? Pourquoi mon destin est-il de ne pouvoir cesser de battre?
Je peux rien faire.
So your face and I try to make your face and I try to make you warm, cause you always got what it takes to act like you're some kind of hard ass clown. But I know better than that. I know you're way too long. Oh, oh.
No, you're way too long.
See, I know about your background. It wasn't easy, I know for sure. But that's no reason to brag. It's in the past, so learn to let it go. And just be who you are now, and who you're supposed to be.
C'était Black Part Love de Selassou.
Radio B.
Un cheval dans les rues de Bourg-en-Bresse, c'est une vision amusante et assez commune. Depuis 2011, l'Hippomobile passe de temps en temps pour collecter les déchets recyclés et les sapins usagés. Une initiative de la communauté d'agglomération de Bourg avec les attelages d'Empierrois. Nous avons suivi la première tournée de 2020 pour récupérer les sapins de Noël vendredi 3 janvier.
Tiens à gauche. Oh là, oh, en arrière.
Ce matin à 8h30, une jument, son dresseur et un employé de la gestion des déchets de l'agglomération prennent la route pour collecter les sapins dans le centre de Bourg. Tina est la jument d'Henri Josserin, un éleveur de Dompierre.
Bah, c'est une jument qui a 12 ans, là. Ça fait 3 ans qu'elle ramasse les sacs jaunes à Bourg-en-Bresse. Là. Elle est sapin, elle est très conviviale et puis elle est beaucoup aux ordres. Quoi. Il faut qu'elle soit aux ordres pour travailler.
Et pour les chevaux, c'est pas un peu bizarre de changer d'environnement?
Ah ben oui, ça les change, mais il s'habitue très vite, hein, le cheval. Hein. Quand il a confiance à son meneur, le cheval il s'habitue, on peut lui faire faire n'importe quoi à peu près.
Et au niveau des voitures, est-ce que les gens sont tolérants? Parce que vous n'allez pas très vite, je suppose.
Avec les voitures, on n'est pas embêtés. Les gens sont pas stressés derrière le cheval, ils ne klaxonnent jamais. Même qu'on essaye de se garer, toutes les fois qu'on trouve une place pour se garer, on se gare pour laisser passer les voitures. Mais quelquefois, on ne peut pas se garer, donc ils attendent derrière. Ils sont vraiment sympas, ils ne bougent pas, ils klaxonnent pas, ni rien. Ni on se fait gronder, ni rien.
Henri Josserin a quitté la campagne avec son camion tôt ce matin pour aller en ville. Depuis 2011, il récupère les déchets certains jours de l'année, un moment qu'il apprécie.
On est bien enchantés, les commerçants sont très contents de nous voir passer avec le cheval en ville. Ça pollue pas et puis ça fait pas de bruit surtout, c'est très silencieux.
Anne-Marie accueille avec un grand sourire l'arrivée de la jument alors qu'elle s'apprêtait à traverser. Elle assiste à un spectacle peu commun.
Je trouve que c'est génial, oui, c'est très bien. C'est la première fois que je vois ça. Puis là, j'étais à Bourg-la-du-Bonheur, donc ouais, même dans les villages, ce serait bien qu'ils fassent ça aussi dans les villages. J'habite à Tignan.
Tina rencontre un grand succès avec les quelques leftos qui traversent Bourg. Faire venir les animaux en ville, c'est une pratique de plus en plus demandée, selon Henri Josserin.
L'attelage, c'est une passion, et puis ça fait 40 ans que je fais ça déjà. Mais plus ça va, plus on travaille avec les chevaux, on les met de plus en plus en ville. Ce qui est très intéressant, de les mettre en ville, quoi. Il faut avoir de très bons chevaux pour travailler en ville aussi. Ça fait voir un peu comme c'était autrefois, et puis il y a beaucoup des personnes qui viennent caresser le cheval, qui viennent autour du cheval. C'est reposant de travailler avec le cheval aussi. C'est très reposant. Moi, ça serait très bien si on pouvait ramasser les ordures toute l'année. Ça serait sympa, et puis les gens seraient vraiment contents de voir le cheval qui passe tous les jours devant leur porte.
Et donc ça change quoi entre prendre des sapins avec un camion et prendre des sapins avec un cheval?
C'est moins fatigant que le cheval.
Jacques est employé à l'agglomération de Bourg.
On est moins secoué, on est moins... Et puis, c'est plus calme, on est bien.
Bonjour, ça va? Ça se réveille?
Donc premier point.
On est quelle rue là?
Là on est rue Joffre et le point il est rue Guichard.
Donc vous, qu'est-ce que vous faites là?
Moi là, ce que je fais, je reste au guide de ma jument pour qu'elle avance, pour qu'elle se sauve. Voilà, la sécurité.
Et donc votre collègue il fait quoi pendant ce temps?
Le collègue il ramasse ses sapins, il les met dans la calèche, dans les poubelles.
Et ça, ça dure jusqu'à quelle heure à peu près?
Jusqu'à 11h. 11h, 11h15. Oh là! Vous voyez comme ça fait du bruit? Alors si le cheval n'est pas habitué, il se sauve. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours rester auprès de sa bête.
Donc pour ce premier point, vous avez pris combien de sapins à peu près?
8, il y en avait 8.
C'est un bon score?
Oui, parce que depuis hier... que je passe tous les jours quand même les ramasser, moi, à cause de l'incendie et compagnie. Je passe tous les jours en camion. Mais là, il y en a 8 depuis hier, oui. La plus grosse semaine, ça va être la semaine prochaine. Ils vont tous déblayer les sapins ce week-end.
Pour un peu moins de 2000 euros par an, l'agglomération de Bourg fait venir l'attelage pour récupérer les sapins et les déchets recyclés en ville. Une pratique qui a plutôt une vocation pédagogique pour encourager les habitants à mieux se débarrasser de leurs déchets. Anne-Sophie Buellet est directrice du service de gestion des déchets pour l'agglomération.
On n'a pas l'habitude de voir des animaux en ville et pas mal d'usagers restent sur le cœur de ville et parfois ne sortent pas. Ça permet de créer un contact et un usager qui est touché, c'est peut-être qu'un seul, mais il va pouvoir répandre la bonne parole et donner envie de trier, de bien recycler, de recycler son sapin à sa famille, ses amis. Et du coup, voilà, ça permet de déclencher ce moteur dans la réduction des déchets.
Tina et son éleveur vont passer récupérer les sapins les 7, 10 et 17 janvier sur les différents points de dépôt du centre de Bourg. Ils sont repérables par leurs barrières. À Péra, Viria et Saint-Denis-les-Bourgs et les autres jours sur Bourg, c'est des camions qui viendront prendre les arbres. Ils sont destinés à faire du compost vendu aux agriculteurs. Et l'Hippomobile passe mardi 7 janvier et les vendredis 10 et 17 janvier au matin. Vous pouvez déposer vos sapins sans décoration ni sac dans l'un des points de récupération du centre de Bourg-en-Bresse. Et sinon, il faut l'emmener en déchetterie. Dans l'agglomération de Bourg, c'est Alain Mathieu qui est l'élu en charge de la gestion des déchets. Et il est aussi maire de Jasseron. On l'écoute.
L'Hippomobile, c'est quoi son but dans la gestion des déchets sur l'agglomération ?
Une raison simple, le côté ludique du ramassage avec un cheval et puis une remorque, c'est quand même pas courant. Et puis en même temps, c'est aussi pour sensibiliser les habitants, car quand on voit quelque chose de nouveau, puis quelque chose qui ne ressemble pas au camion classique, j'allais dire, eh bien on est plus à l'écoute et plus attentif. Nous, on s'aperçoit que ça a quand même un but et qui est important, puisque on a augmenté cette année la collecte des sacs jaunes. Donc là, on est à 850 kilos par habitant, alors qu'on était à 747 kilos l'année dernière. Donc ça veut dire que les personnes apportent de plus en plus les sacs jaunes, trient de plus en plus et de mieux en mieux. Donc ça a ce côté incitatif de que les déchets soient triés au mieux et que ça nous fasse une planète beaucoup plus propre.
Communiquer donc avec les habitants de l'agglomération sur comment on trie, est-ce que c'est un gros challenge pour un service de gestion des déchets ?
Je crois qu'il ne faut pas baisser les bras parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir se répéter. Les déchets qui ne sont pas triés, c'est une perte pour tout le monde. Et en même temps, ça apporte des pénalités aussi au niveau de CA3B. Il faut qu'il y ait le côté aussi de la rentabilité de ce qu'on fait. Les collectivités se sont engagées pour que le tri soit fait au maximum. Alors, c'est pas dire je paye mes impôts et de dire je lance mes déchets n'importe où. Ça, c'est surtout une grosse erreur à faire, puisque on verra dans l'avenir, mais les déchets et le tri et les enfouissements d'ordures ménagères, et ainsi de suite, d'une manière ou d'une autre, doivent diminuer d'une façon drastique. Et plus les personnes ne trieront pas, en général, on paiera la note à la sortie, parce que c'est des surcoûts pour les collectivités.
Pour cette nouvelle année, c'est quoi les gros objectifs dans la gestion des déchets sur l'agglomération ?
Le PLP DMA, donc, est le plan local de déchets ménagers. C'est une loi qui nous oblige à le faire. C'est la réduction des déchets. On a une réduction de plus de 10% de ce qu'on consomme et on s'aperçoit qu'on est à 500 kilos par an. Donc, si on enlève 10%, il faudrait qu'on arrive de mémoire 450 ou 445 kilos. Ça, on va mettre en place des actions. Et ces actions-là, elles sont en train de se discuter. Et puis, on essaiera au maximum d'arriver à ce que ces déchets diminuent d'une manière ou d'une autre.
C'était Alain Mathieu, élu en charge de la gestion des déchets sur l'agglomération.
Radio B.
Radio B.
Et
Et une info en bref pour terminer cette émission. Ce lundi 6 janvier, devant le groupe scolaire Alphonse Daudet à Bourg-en-Bresse, une soixantaine de personnes, enseignants, associations et autres citoyens, se sont rassemblés pour dénoncer l'expulsion d'une famille albanaise qui réside à Bourg. Pendant ce goûter solidaire lancé par un enseignant de l'école, une pétition a circulé pour demander au préfet de l'Ain, Arnaud Cochet, de mettre fin à cette expulsion. Plus de 50 signatures ont été récoltées pour le moment. La famille touchée a reçu un courrier fin décembre demandant de quitter le pays. Et c'est la fin de cette émission d'À vous les Burgiens. Merci de nous avoir écoutés. Et demain, entre 7h et 9h, vous retrouverez l'information avec la matinale de Camille. Bonne soirée sur Radio B.
Je crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Des personnes qui arrivent d'Afrique, des personnes qui arrivent des Balkans. Et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes, on les découvre autrement.
J'ai marqué.
Bah, un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.